Bonjour et bienvenue à cette première émission de la saison d'hiver, bien sûr. Voilà, on me dit quoi ? Hiver, été, automne ? Non, c'est l'automne, bien sûr. Voilà, et puis mon invité est déjà avec moi en studio. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Mon complice à la console là-bas, lui, il m'a dit qu'il n'a pas eu de vacances. Bon, l'année prochaine, il aura ses vacances.
J'espère l'année prochaine.
Ah ouais, t'es 5-6 semaines de vacances.
C'est ça.
Il se croyait en Europe. Samuel. Voilà. Et mon invité est déjà avec moi. On va parler de son parcours professionnel. Il ne fait pas seulement que de la radio, il ne fait pas seulement que des films, mais il est aussi rappeur. Voilà, on va écouter une de ses pièces un peu plus tard. Il va falloir que je lui dise bonjour. Raël Hamoud.
Salut Fulgence.
Oui, merci d'avoir eu le temps. De toute façon, tu n'étais pas en tournage, donc tu pourras avoir le temps de venir nous voir.
Je prendrai toujours le temps, ça fait très plaisir d'être là.
De venir parler un peu de ton parcours. D'abord, comment les parents, à quel âge les parents sont arrivés ici avec toi ?
Mes parents sont arrivés, on est...
environ de 15-16 ans par là.
Ouais, en fait, moi à 16 ans, je suis revenu m'installer seul. Mais on a immigré d'abord en famille. Et la première fois que j'ai mis le pied au Canada... C'était un été, j'avais 10 ans, c'était en 96, été 96.
Oui.
Et on est resté quelques mois et on a vécu notre premier hiver, c'était la tempête de verglas.
Quand tu dis on, c'est toi et le reste de la famille, bien
voilà.
Sûr.
Voilà, et quand on a vu la tempête arriver, on s'est dit, ça ne va pas marcher. On passait du Niger, c'était 40 degrés à l'ombre,
ah oui.
À moins 40, en plus la glace, on pensait que c'était tout le temps comme ça. Moi, j'étais un enfant, donc j'aimais ça, ne rater l'école pour raisons météorologiques.
Le Niger, c'est un pays du Sahel.
Exact. Donc, les seules tempêtes qu'on avait, c'était des tempêtes de sable.
C'est
mais
ça.
Voilà, ça ne dure pas des semaines. Et ici, donc, je ratais l'école et j'étais content parce que, OK, l'école est fermée. Mais après, je sais que ça a été très dur pour ma mère, mes parents aussi, pour retrouver du boulot et tout. Puis, ça a été beaucoup d'aller-retour jusqu'à 16 ans, où à 16 ans, j'ai pris la décision de venir m'installer ici parce que je voulais venir ici. J'avais besoin de liberté. Et je me sentais un peu enfermé au Niger au niveau des opportunités que j'avais devant moi. Donc j'avais l'opportunité, la chance de partir, étudier, c'est ce que j'ai fait.
Ouais. Donc disons que c'est le climat qui a fait que les parents prennent la décision de retourner définitivement au Niger. Quoi.
Ouais, exactement. Mais après, ils ont fait beaucoup d'aller-retour.
Oui, puis, parce que tu étais ici.
Voilà, et j'avais un frère aussi qui était là. Quand je suis venu à 16 ans, j'ai rejoint mon frère. Mmh. On ne s'entendait pas trop bien, donc après j'ai été plus seul. Mais c'est comme ça que je suis revenu au Canada.
Oui. On a tous été giflés, je me rappelle bien, pour la première fois, je suis sorti de là. Mais j'étais venu en vacances ici en 2003. J'ai passé 4 semaines en septembre, je suis tombé amoureux de Montréal. Et je suis reparti en Europe, j'étais en Europe,
okay.
En Allemagne et en Suisse. Et puis, de là-bas, j'ai fait rapidement. En 3 mois, j'ai eu ma résidence permanente.
Tu sais...
À l'époque, c'était très vite.
C'est vrai, c'est rendu plus difficile. Mais tu sais, à l'époque, j'avais parlé de ça avec Corneille,
oui.
Le chanteur. Et il m'avait dit cette phrase que j'avais aimée. Il avait dit, tu sais, il y a une fenêtre, il appelle ça comment ? La fenêtre d'émerveillement ou du mois de l'opportunité.
Oui.
C'est-à-dire que tout immigrant ou toute personne qui arrive au Canada au début, il voit que le beau. Tout ce qui est magnifique. Et surtout nous, avec les parcours qu'on a, en arrivant, on dit « Waouh, quelle belle société, c'est propre, c'est sécuritaire, les gens se respectent, on ne te regarde pas de haut, et puis les gens font la file et se respectent dans la file.
Oui. »
Et
oui,
c'est
oui,
vrai
oui,
que c'est
oui.
Par après, aussi avec l'hiver et la température, que tu commences à sentir « Ok, mais il y a aussi des choses plus dures que je vais devoir traverser. »
En tant que vacancier, c'est très beau.
Voilà.
Moi, j'ai vu le côté, le flair européen dans Montréal.
Ouais.
Le flair européen qui était là, et puis je me suis dit… Mais j'ai fait le saut parce que j'étais bilingue. Si je ne parlais pas anglais, je n'allais pas venir.
Mmh.
En tant que seulement avec la langue française, j'ai dit non, j'avais pas. Bon, c'est pas évident. Hein.
Écoute, l'immigration, même quand tu es dans les meilleures conditions, c'est ça que j'essaie d'expliquer toujours aux gens.
Ouais.
Même si tu viens, que tu es un immigrant choisi, que tu as de l'argent, que tu as fait le choix toi-même de venir, tu viens pas en tant que réfugié, tu n'as pas fui ton pays.
Non.
Ça reste difficile. Et c'est ça que je dis souvent quand je me balade et que je vois des nouvelles familles immigrantes qui sont en train de choisir, par exemple, des manteaux. Dans le centre de Côte-des-Neiges ou quoi. Et je me dis, ils ne savent pas comment ils vont galérer.
Ouh.
Les premiers hivers, là, c'est très dur.
C'est dur, c'est dur. Même ceux qui sont nés ici ne se sont jamais habitués. Alors, on continue avec ton parcours. T'es animateur, réalisateur, chroniqueur, rappeur. La musique, on lui fait un clin d'œil quand on va faire la petite pause musicale. Ce serait une de tes pièces qu'on va écouter. Comment s'est passé ? Les études sont très bien passées, d'ailleurs. L'entrée à Radio-Canada, dans les médias, ça a été...
C'est un concours de circonstances et un hasard.
C'était pas quelque chose de programmé.
Jamais.
Ça n'a jamais été un rêve.
Non. J'ai eu deux rêves dans la vie. Le premier, c'était d'être astronaute. J'ai compris que j'y arriverais pas. Le deuxième, c'était de faire de la musique. Et quand je suis venu à 16 ans ici, c'était vraiment pour avoir l'opportunité de travailler avec des gens en musique et d'être dans un endroit où je me disais, c'est possible de le faire. parce que là où j'étais au Niger, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait pas de... Je ne connaissais personne qui avait un micro et un ordinateur pour enregistrer. Il y en avait...
À des... Niamey.
Il y avait des studios. Moi, oui, je n'avais pas accès à ça.
Mais tu n'étais pas dans ce milieu.
Voilà, je n'avais pas accès à ça. Mm-hmm. Puis à l'époque, c'était beaucoup de logistique. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu as un petit micro, un petit ordi, un portable, tu peux t'enregistrer dehors. Ce n'était pas la même chose. Et puis, quand je suis venu ici, je me suis dit, oui, la musique, mais dans ma tête, j'avais toujours l'idée... Le Niger, pour moi, c'est un des plus beaux pays du monde, avec l'un des peuples les plus gentils que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et je me disais, il faut que je fasse un truc un jour pour leur rendre ce qu'ils m'ont donné à moi. Et je voulais faire du développement humanitaire. Donc, j'ai étudié ici en études internationales et je devais faire un stage pour finir mon bac dans un camp humanitaire. Puis je me disais, ça va me permettre de rentrer là-dedans et de rentrer dans ce créneau-là. Et le seul stage que je trouve à l'époque qui me plaît, c'est un stage dans les camps palestiniens au sud Liban. Moi, je suis Libanais d'origine. Je me suis dit, ça va être une occasion pour moi de découvrir mon pays d'origine. Et puis aussi... d'aller aider les Palestiniens, qui est une cause qui me touche depuis très longtemps.
Donc, bien avant ça, les parents n'étaient jamais allés au Liban avec toi?
Quand j'étais petit, c'est-à-dire jusqu'à 5-6 ans, je suis allé avec eux.
T'avais même pas encore, t'as même plus les immeubles.
Tout ce que je me rappelle, c'est les immeubles avec des balles, parce que c'était encore dans les années d'après-guerre civile. Ouais. C'est ça que je me souviens, où on me disait, va pas sur ce balcon, il est fragile, il peut tomber. Tu vois, c'était à peu près ce que j'avais comme souvenir. Mmh. Et je postule à ce stage, je l'ai, je me prépare, je fais des cours d'arabe, je fais des cours de premiers soins. Et on est en 2006, il y a la guerre Israël-Liban qui éclate. Et là, mon coordinateur de stage m'appelle et me dit « Le stage est annulé, tu ne pourras pas y aller. » Et je lui ai juste dit « Écoute, je suis endetté, je travaille à côté, mais il faut qu'un jour que je commence à vraiment travailler, qu'est-ce que je peux faire pour vite finir mon bac, avoir un stage ?» Il me dit « Ah ben, il y a un stage offert à Radio-Canada, veux-tu essayer de postuler là ?» Et je te jure, Fulgence, je ne dis pas ça pour blaguer, j'avais jamais, jamais écouté la radio de Radio-Canada jusqu'à ce moment-là. Et en fait, ça a été un concours de circonstances. Je suis rentré dans cet environnement-là que j'aimais parce que c'était des studios de musique pour moi. Je rentrais, il y avait des micros, je voyais des consoles, les techniciens qui réglaient la voix et tout. Et de l'autre côté, ça m'a donné un cours accéléré de la culture québécoise. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'un invité venait, je ne le connaissais pas. J'apprenais sur lui, j'allais googler.
Tu peux pas trouver un endroit mieux que ça par rapport pour connaître pour découvrir la culture québécoise. En gros,
c'est ça, mais
Radio-Canada, c'est... Ouais.
Mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que du moment que tu immigres et t'es francophone comme moi, t'as coché toutes les cases, t'es un bon immigrant.
Ah non.
Or, il faut un moment donné où tu puisses t'intéresser ou en tout cas qu'il y ait des outils qui te soient offerts pour que tu comprennes la culture dans le pays ou la province dans laquelle tu viens. Et ça, c'est pas aussi facile que aller faire des cours de francisation, par exemple. Et ça m'est resté en tête de me dire, aujourd'hui, je connais beaucoup plus de choses, Dieu merci, je suis très heureux de ça, du Québec que certains amis à moi qui sont québécois.
Oui.
Parce que c'est facile avec Internet de vivre dans des écosystèmes ou dans des espèces de petits clans de pensée ou de culture et ne jamais s'intéresser à l'autre.
Alors, donc le stage a commencé à Radio-Canada, tu es rentré, tu n'es plus sorti.
Mais pour vrai, c'est ça. Je ne peux pas le dire autrement. J'ai eu beaucoup de chance, c'est un privilège énorme, mais c'est arrivé au hasard.
Et c'était le bon moment, tu as rencontré les bonnes personnes, c'est tout. Quoi. Ouais. C'est vraiment... Il ne faut pas se poser des questions. Je me rappelle bien comment j'ai commencé à Radio Centre-Ville à l'époque. Je montais les escaliers, puis on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, jeune homme. Je dis, je vais faire de la radio. Vous avez une formation? Je dis, non. Vous avez de l'expérience? Je dis, non. On fait rentrer dans le bureau du directeur, on parle 5 minutes, il appelle sa responsable de programmation. Trouve-lui quelque chose.
Waouh!
Comme ça.
Mais avec la voix que tu as, Fulgence, si je peux me permettre, moi j'aurais fait pareil. J'aurais dit donnez-lui une émission tout de suite.
Non, je voulais simplement aller voir un studio de radio que je n'avais jamais vu.
Et
j'ai dit, en montant les escaliers, je me suis dit, mais si on me demande qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que je veux faire de la radio. Ouais. Je fais 2 ans là avant d'aller à l'école de radio-télé. Donc ça a été. J'étais en informatique en plus. Ouais. Donc ça a été un parcours de circonstances.
Mais t'aurais dû aller à l'Auto-Québec et leur dire j'aimerais être millionnaire. Parce que ça marche aussi.
Je joue même pas alors. Alors, tu es toujours là-bas, mais un jour tu as pris la décision quand même de te dire je peux faire plus que ça. Avec ma caméra, avec mon micro, je peux rencontrer des gens qui sont ici dans les différents coins du Québec. Avant d'arriver là, on va parler d'abord de Demain l'Afrique, qui a commencé avant...
C'est vrai,
ouais.
C'est bien renseigné.
Comment l'idée t'est venue?
J'ai eu l'opportunité d'abord de petit à petit, parce que les gens, ils pensent, beaucoup de gens, des fois, ils me disent « Ah, comment t'as... » Ça a pris très longtemps. Tu sais, quand je suis arrivé ici première à la radio de Radio-Canada, c'était pas aussi... Je pense que j'étais le seul arabe. Le seul que je voyais qui était arabe, c'était Rachid Badouri, mais lui, c'était une star, tu vois. Et ça m'a pris du temps de devenir recherchiste, de connaître les équipes, de commencer à faire des petites chroniques etc., etc., etc. Tu vois, j'ai eu des opportunités, mais ça a été long. Ça a été beaucoup de travail. Quand tout le monde partait en vacances, Noël, jour de l'an, je travaillais. Puis, grâce à ça, j'ai pu commencer à faire des chroniques radio et ensuite télé avec André Robitaille. Et histoire courte, mais j'ai fait 3 documentaires autour d'une histoire qui m'est arrivée. Personnellement, c'est un ami à moi que j'ai rencontré quand je suis arrivé en classe ici, quand j'ai immigré là. Qui s'est retrouvé à aller dans Daesh. Et ce gars-là, moi, c'est ça qui m'a tué quand j'ai appris que c'était lui. C'était le plus gentil, le moins religieux des gens que j'ai connus dans ma vie. Okay. Donc, je me suis dit, comment quelqu'un peut changer complètement de personnalité?
Oui, c'est possible.
Ça, ça m'a ouvert des opportunités, une fois que je les ai fait, d'avoir des producteurs qui me disent hey, « Si tu as des projets, viens nous voir, présente-les. »
Wow.
Oui, et ça,
À l'intérieur de Radio-Canada
Non, mais...
À l'extérieur aussi.
Oui, oui, Zone 3 surtout, des boîtes de production, je ne savais pas comment ça marche à l'époque. Mais là, j'ai eu des appels, j'ai eu des courriels. Et dans ma tête, je te répète, j'ai toujours voulu faire du développement et j'ai toujours dit « Moi, je suis né au Niger, un des pays les plus pauvres du monde et j'ai eu l'une des enfances les plus heureuses. » Et chaque fois que je regardais comment l'Afrique était montrée, aux nouvelles ici, ou en général en Occident, c'était sous l'angle de la misère et des guerres. Comme si les gens ne s'amusaient pas, comme s'il n'y avait pas des gens qui étaient extrêmement
comme
heureux.
Comme s'il n'y avait pas de vie.
Voilà. Mmh. Et je me suis dit, il faut qu'on change cet angle. Il faut qu'on essaye de... En tout cas, moi, je le sais, la jeunesse là-bas, elle est vibrante. Elle a des idées incroyables. Souvent, elle se bute au pouvoir qui ne comprend pas à quel point cette jeunesse est dynamique. Mais ils ont des idées et Internet est en train de leur faire passer un bond de 50 ans dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rattraper le temps, réellement.
Je parlais il y a 2 semaines avec un de mes amis à qui j'ai dit « Si l'Occident savait que l'Afrique allait s'accaparer l'Internet, il n'allait même pas leur
c'est possible, c'est vrai.
D'avoir accès à l'Internet.
C'est vrai.
C'est l'erreur qu'ils ont fait.
Et tu regarderas quand il y a des révoltes ou des élections qui sont un peu compliquées, on va dire.
Oui.
Qu'est-ce que fait le pouvoir? Il bloque Internet.
Il bloque.
Et c'est toujours ça. Donc, bref, je suis dans un café, je me dis de quoi j'aimerais parler. C'est un rêve que je vais écrire. Et j'ai juste écrit « Demain l'Afrique ». Montrer l'Afrique sous un angle urbanisé, donc les grandes villes, parce qu'il faut dire aussi ça, d'ici la fin du siècle, l'Afrique sera le continent qui domine en termes de population, les plus grandes villes du monde seront en Afrique, Lagos au Nigeria sera la plus grande ville avec plus de 100 millions d'habitants, donc l'avenir est là, il n'y a même pas besoin de penser ou d'analyser, on sait que c'est ça.
Oui.
Et je me suis dit, on va montrer la jeunesse qui vibre dans ces villes-là. Qu'est-ce qu'elle fait pour aujourd'hui, mais qui est porteur d'avenir? Et j'ai lancé le projet. On m'a dit « L'Afrique nous intéresse ». Au début, j'avais mis des stars dedans parce que je ne pensais pas qu'on allait me donner une émission. On m'a dit « Enlève les stars, vas-y tout seul ».
Wow.
On devait partir et puis il y a eu la pandémie. Et j'avais un billet pour le 17 avril 2020 et la pandémie, on nous a bloqué le 15 mars. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ben voilà, des fois, tu as des beaux rêves, tu crois que ça va se réaliser, ça ne se fera jamais ». Et c'est comme ça ensuite que j'ai proposé Immigrant de souche parce qu'on était bloqué au Québec. Et je me suis dit « Ben, on va faire voyager en restant ici ».
Oui, oui. Voilà. Donc, tu as fait d'une pierre deux coups, quoi.
Oui.
Ah ouais, même si
effectivement, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de peine parce que je me suis dit à un moment donné, on faisait Immigrant de souche, je me suis dit, l'Afrique, on va jamais y aller. Tu sais, quand on était au plus fort de la pandémie et que partout c'était bloqué, j'ai longtemps cru que je pourrais pas bouger.
Mais ça s'est réalisé quand même après la pandémie.
Oui, après la pandémie. En fait, même pendant. On a voyagé quand il y avait encore tous les tests, en tout cas, c'était le bordel aux douanes. Mais à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le producteur, je dis, vous voulez le faire ou pas? Ils m'ont dit oui. Je dis, moi, je vois mes potes qui sont à Abidjan ou à Dakar, ils vivent beaucoup mieux que nous avec la pandémie.
Oui.
Fait que c'est bloqué de notre côté, pas du leur.
Oh oui.
Et là, ils m'ont dit, OK, si toi, t'es willing, vas-y.
C'est vrai, parce que les gens pensaient que les Africains allaient mourir beaucoup plus que en Occident.
Tu sais que j'ai une théorie là-dessus.
Ouais.
En Afrique, on ne laisse pas les vieux dans des maisons seuls. En Afrique, les vieux font partie de la société. C'est même le centre de la société.
Le jour qu'un Africain va se lever pour dire « Je vais construire une résidence de personnes âgées », il va se faire
enterrer. Il va se faire enterrer
ce jour-là.
Et je pense que grâce à ça, les personnes âgées qui font partie de la vie active ont encore les anticorps que les enfants ont.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'enfant rentre, il va voir son grand-père.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que, parce que moi, mes deux parents l'ont eu dans la toute première vague, ma mère a failli en mourir. C'est très sérieux ce qui s'est passé, mais... Je pense vraiment qu'en Afrique, les anticorps étaient plus développés. Tu sais, ma mère, quand elle l'a eu, ma mère est née au Sénégal, elle m'a dit, Raed, j'ai le palu. Elle m'a dit, j'ai la malaria. Elle disait, c'est exactement les symptômes de
la
malaria.
C'est les mêmes symptômes.
C'est la même chose. J'ai froid, j'ai truc, j'arrive pas à manger, tout est amer, etc. Et puis, donc, juste pour cette théorie-là, je me dis que le fait que les vieux en Afrique soient vraiment intégrés à la société, ça aide.
Oui.
Ça aide, ouais.
Je ne sais pas, le premier Africain qui va construire une résidence de personnes âgées. En tout cas, ce n'est pas dans ce siècle dans lequel
on vit. Ce sera aussi le dernier.
Voilà, ce sera le dernier. Alors, on va écouter une de tes pièces. Avant, on n'a même pas encore parlé de ta carrière musicale, mais on va l'écouter, une de tes pièces, avant de revenir parler de ta carrière musicale.
Presse à New York. Ça, elle en dit quoi ?
remplis la malle de produits du marché. Passe salam au mogo du quartier. On m'a parlé d'une femme et j'ai rien pour doter. Porter le panier, c'est faire le mafé. On a bien fait la fête, mais on sait se ranger. Payer les dettes, on va tout arranger. Moi j'envoie le western, laisse ta famille compter. J'ramène des sables, le village est comblé. C'est les princes à New York. Trop d'appétit pour qu'on ferme les portes. C'est les princes à New York.
On dit quoi?
L'amour du bled se conserve, on l'emporte.
Je suis prince à New York.
J'oublie le passé, le futur s'améliore.
Je suis prince à New York.
Trop de fierté pour que jamais on s'en sort.
Africa est fier, donc on fait la mala. Pour le pays, je dois ramener le mili. Mouiller le maillot comme un daron malien. Congolais toujours sapé comme un Milan. Mollo, on fait la fête dans l'appartement. Tout le village avec moi. Tema, Brazanyame, Kinshasa, Alger, Dakar, sans oublier Rabat. Hey, oh. Abidjan, on dit qu'il faut para. Donc désormais, on passe à la télé. Comme son cara, je porte mon béret. Mais qu'un fruit de Beris, allez leur dire
c'est les princes à New York.
Voilà, c'est comment.
Trop d'appétit pour qu'on ferme les portes.
C'est les princes à New York.
L'amour du bled se conserve, on l'emporte.
Je suis prince à New York.
Dakar, je reviens.
J'oublie le passé, le futur s'améliore.
Je suis prince à New York.
Kigali.
Trop de fierté pour que jamais on s'en sort. On a bougé du bled pour venir travailler. Pas demander de l'aide ou tenir les poignets. Jamais. Ici soleil, il a le teint enneigé. Mais c'est pas un problème parce qu'on s'est déblayé. On va rentrer au bled, balayer. Sous le soleil, on va balayer. On va rentrer au bled, balayer. Même sous la neige, on va balayer. On a pris le visa, on a fait les papiers. On a passé la douane, on a tout déclaré. On a ouvert un compte, on a tout décalé. On a suivi les règles, on a rien demandé. Maintenant je rentre au bled, je vais balayer. Sous le soleil, je vais balayer. Même sous la neige, je vais balayer. Avant de rentrer, je vais bien mailler.
C'est les princes à New York.
Trop d'appétit pour qu'on ferme les portes.
C'est les princes à New York.
Ottawa, c'est comment.
L'amour du bled se conserve, on l'emporte.
Je suis prince à New York.
Montréal, je reviens.
J'oublie le passé, le futur s'améliore.
Je suis prince à New York.
Trop de fierté pour que jamais on s'en sort.
Cette pièce que vous venez d'entendre, c'est Sahel. Sahel, c'est mon invité avec mon studio, mais Sahel, c'est son nom d'artiste. Si vous allez chercher, si vous voulez. Non, c'est Riyad Hamou, ça, c'est son vrai nom de famille.
Exact.
Mais comme tout artiste avec le fantasy.
J'ai aimé te voir bouger voilà. Sur la pièce.
Ah, ouais, d'accord. Je l'adore. Je l'ai écouté plusieurs fois. Merci. Avant de mettre sur la liste aujourd'hui. Merci. Sahel, c'est S-A-E-L. Prince à New York, avec la complicité de Yassé Tidon. Ou comment la rencontre s'est faite avec celui-là?
Ah, Yassé Tidon.
Ce Congolais de Brazza. Là.
Voilà, de Brazza, de Pointe-Noire. Et vraiment, si vous avez la chance, il fait beaucoup, beaucoup de scènes.
Oui.
J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi électrisant sur scène. D'ailleurs, là, il était à Toulouse dans un des plus grands festivals européens. Je pense que c'est le Festival Rose qui est organisé par Big Flo et Oli.
Oui.
Et il a fait une scène là-bas. C'est la preuve que sa musique est en train de vraiment voyager.
Ah, oui.
Je l'ai vu une fois sur scène. Et puis, je ne sais pas comment dire. Il est...
Ici à Montréal.
Ici à Montréal.
Oui, il était de passage ici.
Ouais, en fait, il s'est installé là. Et là, il faisait une scène. Et moi, j'étais invité avec un ami. Et je connaissais bien son manager Dallas, qui lui vient du Cameroun.
Okay.
Il nous a mis en contact. Puis, écoute, tu sais, quand tu salues quelqu'un, on dirait que ça fait 15 ans que tu le connais, tu vois. Et ça, la complicité, elle est venue automatiquement. Et direct, on s'est dit, on va faire un morceau.
On dit,
mais
ça passe ou ça casse, quoi.
Ouais, ça a été, ça a été fluide, en fait. Tu vois, on ne s'est même pas posé de questions. Mmh. Et puis, on a toujours voulu collaborer. Et quand j'ai pensé à cette chanson-là, donc de me dire Prince à New York, c'est-à-dire des gens qui immigrent et qui ils vont réussir. Mmh. On n'a pas besoin de pitié ni rien.
C'est ça.
Je me suis dit, c'est lui qui me fallait sur le. Parce que lui, il a été aux États-Unis, il a été en France, il est venu ici, il a fait un grand parcours migratoire pour trouver sa place.
Tout un
vois.
Parcours.
Voilà.
Voilà. Oui.
Non, si je peux me permettre, sur la guitare que tu entends, c'est un grand guitariste congolais de République démocratique du Congo.
Oui.
C'est le frère de Inos B. Je ne sais pas si tu connais Inos B, c'est un jeune
congolais.
C'est
celui qui avait été invité pour la Nuit d'Afrique de cette année.
Exact,
bravo. Ça n'a pas vraiment eu lieu, là.
Exactement, voilà, c'est exactement lui.
C'est un grand, je l'aime bien, ce artiste.
Voilà, et c'est Jizo. Jizo, il nous a fait l'honneur de faire les guitares sur ce morceau.
Wow.
Il fallait ce rythme que tu ne peux pas demander à un guitariste ici de le faire. Il fallait que ça vienne de là-bas.
Oui. Non, Hassan Sek peut le faire.
Ah oui, c'est vrai, Hassan Sek, c'est vrai. Mais tu vois le groove, ce groove-là.
Mais tu connais Hassan Sek.
Oui, bien sûr.
Hassan Sek peut le faire.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est notre gars ici. Là. Ouais. Bon, on revient à 2000 Afrique. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu approcher TV5? Ou bien Zone 3 travaillait déjà avec TV5? Ou bien ils avaient des productions?
En
comment
fait,
ça s'est passé?
Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis allé voir Zone 3 en leur disant, j'ai cette idée-là. Puis qui on devrait aller voir pour que ça se réalise.
Oui.
Et eux, tout de suite, ont dit TV5.
TV5.
Et TV5, à notre grand étonnement, quand on allait, ça a été très rapide parce qu'ils nous ont dit, c'est drôle, on voulait parler de l'Afrique, on ne savait pas comment, avec qui. Donc oui, on embarque dans le projet. Et ça a été aussi rapide que ça, aussi facile que ça.
C'est ce qu'on appelle être au bon moment et rencontrer les bonnes personnes.
Les as se sont alignés.
Oui, les as se sont alignés.
Mais,
vraiment, c'est...
mais de plus en plus, je vis ma vie comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais forcer les choses. Quand tu acceptes ce que l'univers te donne ou ne te donne pas à ce moment-là, alors que tu le voulais, il faut te dire que si on te ferme la porte là, c'est parce qu'il y a une autre qui s'ouvre.
Tu sais, c'est ce qui fait que je dis toujours la meilleure école, c'est l'école de la vie. Hein. C'est ouais. L'école sans diplôme.
Ouais.
Voilà.
Je suis d'accord.
Jusqu'à la fin de nos jours.
Ouais.
Voilà. Alors donc, ça a été très simple avec TV5 pour la diffusion de Demain l'Afrique.
Ben écoute, après, je ne peux pas te raconter en détail, mais bien sûr, c'est toujours difficile.
Voilà.
Non, mais c'est toujours difficile, c'est-à-dire, OK, on a ce produit-là, là, ils veulent qu'on arrange ça, etc. Tu sais,
il faut peaufiner.
Oui,
comme
tout travail. Il y a toujours des parties moins amusantes pour tout travail.
Oui.
Mais le tournage, c'est ça qui est surtout difficile. D'habitude, ça s'est super bien passé.
Oui.
Partout où on est allé, vraiment, ça a été... c'est une ou deux fois, j'ai dû me sentir un peu en danger, mais les gens comprenaient ce qu'on fait, du moins qu'ils comprenaient ce qu'on fait et qu'on était à la même place, tout le monde. Ils nous ouvraient les portes extraordinaires vers des endroits de dingue, tu vois.
Surtout que quand tu arrives dans le pays, que tu es avec tes fils du pays.
Voilà, exactement.
Mais si tu arrivais tout seul avec ta caméra, ça allait être autre chose.
Tu connais beaucoup mieux que moi, exactement.
Voilà, ça allait être autre chose. Mais quand tu arrives avec les fils du pays, les enfants de là-bas...
Une anecdote, une fois je suis au Nigeria, Lagos, tu sais, Lagos, on dit que c'est une jungle urbaine, ça peut être très dangereux, tu vois.
Ouais,
et puis, je suis
c'est
dehors.
Très dangereux.
Ouais, à l'époque, je fumais encore, je ne fume plus aujourd'hui, mais je fumais une cigarette en bas. Mmh. Là, il y a deux jeunes qui viennent autour de moi, tu vois, ils commencent à me tester. Puis moi, je reste là, tu veux une cigarette, on fume, on partage. Ah ouais, tu fais quoi ici? Oh, je fais un documentaire, ok. Je te dis, au bout de 5 minutes, il y avait 30 personnes autour de moi, tu vois. Et les gars, je ne sais pas pourquoi ils voulaient me tester, mais... Ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait... Genre, j'ai pu leur lancer 2-3 mots d'Aoussa. Parce qu'au Niger, il y a du Germa, il y a du Aoussa. Et j'avais encore quelques mots.
Quelques
et du
mots.
Moment qu'ils ont vu, ah ok, tu te fous pas nos gueules. T'es pas juste un Canadien qui est venu pour profiter de nous. Tu viens vraiment de là. Ils ont vu mon passeport, Niamey, etc. J'ai même rappé avec eux. Ça a tout de suite enlevé toutes les tensions.
Oui, oui,
voilà,
c'est vrai. Ils ont su que tu étais un des leurs, quoi. Ils se sont dit, c'est un des nôtres.
Voilà.
C'est un fils du continent.
Voilà.
Faut pas l'emmerder ici.
Exactement.
Alors, comment s'est passé les déplacements à l'intérieur de la belle province pour s'occuper des immigrants de souche? D'ailleurs, le titre, c'était pas un peu provocatif sur les bords?
Si.
Ah voilà.
Ouais.
Allez, tu nous expliques.
Non, mais c'est. Tu sais, un titre, c'est. Faut que tu attires l'attention.
Immigrant de touche. De souche. Ouais, ouais.
Et en fait, ce titre-là, et je lui dédicace, mais je le dis à chaque fois qu'on me demande, c'est Boukhar Diouf. Moi, quand je travaillais à la radio de Radio-Canada, il y a longtemps, là, je te parle 2012, 13, 14.
Oui.
Boukhar Diouf est venu une fois et on parlait des. Justement, il y avait une polémique autour du racisme systémique et des Québécois de souche et tout. Il a dit, vous savez quoi? Je suis un immigrant de souche. Et cette phrase-là m'est restée.
Ça t'est resté dans la tête.
Ouais. Je me suis dit, j'ai compris ce qu'il veut dire. Tu ne peux pas enlever l'immigration de toi.
Non.
C'est impossible. Tu ne peux pas choisir entre eux. On dit, qu'est-ce que tu préfères, le Québec ou le Niger? Mais tu veux que je choisisse entre ma mère et mon père? Je ne comprends pas. Pourquoi je dois être obligé à faire ce choix? Et quand elle a dit immigrant de souche, j'ai compris ça.
Oui.
Et c'était une façon de dire, tous ceux qui pensent que. Ou on va dire qu'ils sont un peu fermés, justement, vis-à-vis d'immigration, ils vont être interpellés par le titre. Et puis ceux qui sont très ouverts, ils vont dire, mais. Attends, ils se foutent de nous. Donc, tout le monde va les regarder.
Oui,
donc, c'est pour ça qu'on a pris ce titre.
Non, mais ça passe très bien d'ailleurs, immigrant de souche. Ouais, c'est vrai, ça vous dit qu'on est toujours dans le système d'immigration, mais quand même, on est de souche parce qu'on est là pour rester.
Ben oui.
Voilà.
Puis, il n'y a personne. Je le dis souvent, mais oui, il y a des minorités qui viennent pour, on va dire, mais la plupart des gens viennent. Personne ne part parce qu'il en a envie, tu vois. S'il vient, c'est pour se dire, je vais construire un avenir meilleur, le faire pour ma famille, je vais le faire pour les gens-là. Mmh. Tu viens pas pour profiter, tu viens pas pour voler, tu viens pas pour... Tu comprends ce que je veux dire? Après, il y a toujours des...
Profiter de quoi? Du système social ou bien quelque chose comme ça, quoi.
Voilà. Après, il y a toujours des exceptions, mais comme je te dis, la grande majorité, quand tu délaisses tout ce que tu as délaissé, tu vois, ben, tu le fais pour... En espérant un avenir meilleur.
Oui,
tu
ne
vas pas le faire
vrai,
avec une intention contraire.
Alors, tu as fait de très belles rencontres à l'intérieur de la province,
ouais,
en région.
Ouais. Et ouais. En fait, je me suis rendu compte qu'on est sûrement plus fermé d'esprit dans les grandes villes, comme Montréal ou Québec, pour la simple et bonne raison que, tu vois, même moi, quand je te disais que mon immigration, ou plutôt mon intégration, a commencé quand j'étais à la radio de Radio-Canada, j'ai longtemps vécu là, en vivant culturellement en France et au Niger. Je vivais avec... mes amis... me ressemblait, avait le même accent que moi, avait les mêmes référents culturels. C'est dur de se mettre en danger. Ces immigrants-là qui ont décidé d'aller dans des régions éloignées, et je te parle de Baie-Comeau ou de Lebel-sur-Quevillon au milieu de l'Abitibi, ben, t'as pas le choix d'être en harmonie avec les gens autour de toi. Tu peux pas t'enfermer dans ton petit coin
C'est pas possible.
Et ne pas t'intégrer. Non, non. Ouais, ouais. Et pour t'intégrer, c'est OK, on va regarder la game du Canadien. Mmh. OK, je vais aller prendre une bière à la fin de la job. OK, je vais regarder c'est quoi 30 vies, puisque c'est le talk of the town. Le lendemain, tout le monde en parle. Je vais regarder la série qui passe à Radio-Canada, par exemple, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte que ces immigrants-là sont beaucoup plus intégrés au Québec que les gens qui viennent en ville le sont. Et j'ai compris aussi que, tu sais, on n'arrête pas de dire les régions sont fermées, etc. Je pense que la plus grande fermeture d'esprit, elle est dans les grandes villes. Les gens en région, une fois qu'ils te connaissent, ils vont te traiter comme un des leurs. Tu vois?
Oui, parce que ils vont te traiter de cette manière parce que bon, vous n'êtes pas des milliers, vous ne voulez pas vous les envahir. À Montréal, il y a des Montréalais de souche qui se sentent agressés par la présence de gens qui ne leur ressemblent pas.
Oui, puis je pense qu'en ville, on est tous, qu'on soit de souche ou pas, on est individualiste.
Oui.
Tu vois, moi, ça, c'est clair. Je le dis souvent, mais mes voisins, je les connais pas tous. On est côte à côte, tandis que quand tu es en région comme ça, tu vis face à face ou vis-à-vis de la personne.
C'est ça.
Tu peux pas l'ignorer.
Ouais. Il nous reste une minute là, mais je vais l'invité de Alzium Heure ne sera pas là, je vais te garder encore 5 minutes.
Avec grand plaisir.
Voilà. On peut passer. Non, on passe pas la pièce musicale. On la passe juste après la pause. Voilà. Restez à l'écoute après la petite publicité. Mon invité encore avec moi. Il va nous parler un peu. De sa carrière musicale. On a écouté sa pièce musicale, il faut qu'il nous parle un peu de sa carrière musicale avant de partir.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Ah, Barbara Kanam.
Noir et blanc. Fali Kipupa.
Baraka Tukunda. Junior Isele. Salon Godé Kimania. Mike Mutunde. Elengi. Serge Adien. Ah. Kelimbo Soro.
Vous avez reconnu la voix Barbara Kanam avec la complicité de Fali Ipupa, noir et blanc. D'ailleurs, Fali Ipupa, je viens de recevoir un texto qui me dit qu'il sera là début novembre 2024. au Centre Bell.
Ah mais je vais y aller, c'est sûr.
Fally Ipupa au Centre Bell. Merci à mon ami Stéphane Wafo.
Quel grand artiste, Fally Ipupa.
Attends, c'est un grand monsieur, ouais, celui-là. Ouais. Stéphane qui m'a envoyé ce... Ouais, j'ai vu ça, mais c'est pas vrai. C'est le 8 novembre, au Centre Bell. À partir de demain, les billets seront mis en vente.
Faut faire vite, alors.
Il faut faire vite. Voilà, Fally Ipupa, le 8 novembre 2024, au Centre Bell. Ça, c'est... C'est costaud, hein.
C'est
pas Métropolis, machin. C'est le Centre Bell.
Non. Voilà. Lui, quand il fait des concerts, c'est, il remplit des stades.
Ah oui. Je vais revenir sur ça d'ailleurs. Je vois quels sont ceux qui le font venir. C'est pas c'est Evenko ou quoi, pour savoir si on peut le recevoir en entrevue.
Oh waouh, ce serait formidable.
Ce serait vraiment quelque chose.
Puis c'est quelqu'un qui fait le pont entre la nouvelle et l'ancienne génération. Oui. Tu sais, il a fait des morceaux avec Papa Wemba. Il fait des morceaux avec les plus jeunes. C'est incroyable.
Ça fait un moment qu'il fait ça quand même.
Ouais, ouais.
La collaboration entre les artistes. Ouais. Alors, on parle de sa carrière musicale maintenant.
Avec plaisir. Avec plaisir.
On survole, quoi. On peut pas aller en profondeur. Une heure d'émission, ça passe tellement vite.
Ça passe vite.
Voilà. Qu'est-ce que... Tu as toujours été rappeur ou bien ce sont les amis de Montréal qui sont dit, quand tu les as vus rapper, tu dis moi aussi je peux faire?
Ben, en fait, quand j'étais jeune, déjà ma mère, elle écoutait de tout. C'est-à-dire il y avait autant des disques arabes que français classiques, que même des Youd Sundour. Il y avait de tout. À la
bon, elle est née à Dakar, comme tu le dis. Elle est née
oui,
au Sénégal.
Oui, oui, c'est clair. Mais en tout cas, elle écoutait vraiment de tout. Puis, moi j'ai 3 grands frères. Donc, les 2 plus grands écoutaient du rock.
Oui.
Surtout, c'était à la mode pour eux. Et puis l'autre a écouté du rap. Donc, j'avais tout ça dans mon oreille. Mais quand j'ai découvert le rap, puis en particulier une chanson, c'était du rappeur Nas, ça s'appelait The Message.
Oui.
Il reprend un sample de Sting. Je ne sais pas, j'étais jeune, mais j'ai eu un coup de foudre. Voilà.
C'est venu te chercher.
C'est venu me chercher. Mmh. Ça m'a parlé comme rien d'autre m'avait parlé avant.
C'est ça.
Et je ne me suis jamais dit, moi, de là où j'étais, que je pouvais un jour être sur scène, faire un morceau, faire un vidéoclip. C'est quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai vu que des gens dans mon quartier faisaient ça, je me suis dit, oh waouh, ok, c'est possible de le faire.
Oui.
Et vu que c'est possible, après, on est tous des. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de compétitif. Mm-hmm. Je faisais beaucoup de sport. Je me suis dit, si je le fais, je vais être le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à rapper avec eux, faire des freestyles dans la rue, puis intégrer un groupe et ainsi de suite.
Il y a beaucoup de compétitions dans ce milieu d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas des compétitions comme aux Olympiques. Non, c'est les amis qui font des genres de compétitions,
ouais,
pour s'amuser.
Ouais.
Pour taquiner les ouais, comme les slammeurs.
Exactement. Puis voilà. C'est du clash, puis c'est de la figure de style et c'est de l'ego trip, tu vois.
C'est ça, c'est
mais
ça.
Même, il y a les rap Olympics aux États-Unis.
Ah oui.
Ouais.
Oui, oui.
Et même Eminem, qui est devenu l'un des plus grands rappeurs au monde, avait perdu, était arrivé 2e.
Ah bon,
donc comme quoi, tu peux perdre des Olympiques et devenir quand même le meilleur.
Alors, est-ce que ce côté musical s'est mis sur la touche pour l'instant?
Non,
c'est la caméra qui prend le dessus.
Non, je fais, tu vois, Dieu merci, je comment te dire? Je me nourris de ce que j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et
oui,
en ce moment, je suis en train de préparer un 2e album. Mmh. Et je fais ça avec aucune attente. Je ne le fais pas pour devenir célèbre ou riche. Je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Je pense que si je ne faisais pas de la musique, j'irais voir un psy. Je n'ai pas eu besoin de le voir encore.
Tu t'amuses.
Parce que oui, puis
plaisir,
je me libère avec ça.
C'est ça.
Et puis souvent, je le dis... Je ne compose pas des albums de musique, je crée des albums de souvenirs entourés de gens que j'aime.
Mmh.
Donc, je travaille avec des gens que j'aime, avec qui j'ai envie de travailler. Mmh. Et jusqu'à maintenant, chaque petite chose m'a amené quelque part. Tu vois, c'est pas... je veux dire, je suis content du parcours que j'ai là-dedans. Je suis content de le faire pour ces raisons-là. Et j'ai vu tellement de gens se perdre dans la musique. Moi, je suis heureux de là où je suis en ce moment. Donc, je prépare un 2e album qui va sortir le 10 janvier prochain. Ça s'appelle Madeleine de Proust. Et je le fais avec quelqu'un qui s'appelle NKF. Pour ceux qui connaissent un peu le rap français ou la musique française, c'est l'ingénieur de son de PNL. Il s'est installé à Montréal il n'y a pas longtemps. PNL, c'est un groupe qui a révolutionné le rap en 2015.
Mmh.
Et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ça a cliqué. Puis on travaille ensemble.
On travaille ensemble.
Et vraiment, c'est un bonheur.
Quelle a été la réaction des parents quand ils ont su que tu étais aussi? Tu faisais de la musique. Écoute, à côté de la radio.
Je vais te dire, Fulgence.
Avec ta caméra, tu fais aussi de la musique. Comment ils ont réagi?
Moi, mes parents, je les ai quand même fait souffrir parce que j'étais un peu de tête dure et je sortais beaucoup et je faisais beaucoup de choses. Mais j'ai toujours été sérieux, y compris à l'école. J'ai toujours été respectueux et tout. Mais ils n'ont jamais compris ce que je voulais faire ou ce que j'allais faire avant qu'ils me voient un jour à la télé.
Et
là, ça a tout calmé. Hein?
Tu allais, j'ai dit, tu prenais ce qui te...
Ouais.
Toi non plus, si on te posait la question, est-ce que tu t'es posé la question? Non, tu es arrivé à la radio,
voilà,
le rap,
voilà.
Les amis.
Dès que j'avais une porte ouverte, qu'on me disait, on peut faire ça, mais je ne sais pas le faire, je me disais, non, c'est un défi, il faut que j'aille le faire.
Il faut que j'aille le faire.
Tu vois, et je répète, j'ai travaillé extrêmement fort, mais il y a toujours une grande chance. Donc, je remercie les gens qui m'ont tendu la main à certains moments, quand d'autres ne me l'attendaient pas. Mm-hmm. Mais mes parents n'ont jamais compris jusqu'à qu'ils voient que j'arrive à travailler à la télé, à la radio. Ça, ça les a rendus très fiers. Mm-hmm. Et puis, maintenant, la musique, ils comprennent mieux. Mais au départ, mon père, il me disait, qu'est-ce que tu fous Mon frère, une fois, on est passé à Musique Plus, mon frère lui a envoyé le morceau parce que j'avais un groupe. Et mon père a dit, mais c'est quoi cette musique de sauvage? Jusqu'à qu'il dit, mais c'est ton fils. Il a dit, ah non, c'est pas mal, c'est vrai, c'est pas mal, mais non, pas du tout.
Quelle est cette musique de sauvage? Alors, quel est le conseil que tu peux donner à la nouvelle génération qui arrive maintenant, qui se cherche?
Je pense que tu sais, beaucoup de gens, tu vas leur demander, c'est quoi la plus grande qualité? Ils vont te dire l'amour, par exemple.
Oui.
Et souvent, en tout cas, moi, ce que je réalise, c'est que la plus grande... Je veux dire, ça sert à rien d'aimer si t'es pas libre d'aimer.
C'est ça.
Et la valeur que je place au-dessus de tout, c'est la liberté. Mmh. Il faut jamais se laisser enfermer par ce que la société te dit ou ce que tes parents te disent ou ce que on a tous un feu à l'intérieur, on a une voix qui nous parle et il faut l'écouter. Et souvent, malheureusement, l'éducation, c'est quoi? C'est apprendre à ne plus écouter cette voix et à écouter ce que tout le monde te dit autour pour rentrer dans le rang. Tu sais, y a un prof qui m'avait dit ça, mais il me disait les entreprises, si elles prennent des gens qui ont fini l'université ou le bac, c'est parce qu'elles savent que vous allez vous asseoir, vous allez respecter les délais, vous allez présenter les travaux dans telle et telle forme. Ceux qui ont révolutionné le monde la plupart du temps, et je ne suis pas en train de dire quitter l'école, moi j'ai été jusqu'à la maîtrise, je suis content d'avoir fait ça, mais la plupart des gens qui vont révolutionner le monde n'ont jamais fini leur bac universitaire. Si vous avez une idée en tête, une passion, suivez-la, parce que si tu mets les efforts dans ta passion, à un moment donné, elle va te payer d'une manière ou d'une autre.
Oui,
tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je dis, soyez libre de penser, de rêver et d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre.
Oui.
Malgré toutes tes difficultés. Hein. Je ne suis pas en train de dire être artiste. Par exemple, moi, je l'ai été pendant des années alors que je n'avais pas de bon travail et tout. Tu souffres. Je veux dire, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot. Mais il faut suivre ses rêves
galère,
et jamais lâcher.
Ça galère. Ouais, il y a pas mal d'artistes que je connais ici à Montréal qui galèrent aussi.
Bien sûr. Bien
parce qu'il n'y a pas de moment où on arrive à payer les factures, à manger. C'est plus facile de dire je fais ça pour de la passion parce que j'aime ça. J'ai du plaisir là. Mais il y a des gens qui se disent, mais comment est-ce que je vais payer les factures? Voilà. Tout ça, il faut que j'ai du boulot à côté, sinon...
Mais moi, j'ai eu un moment donné où j'ai arrêté la musique 5 ans et je me suis dit, là, je vais travailler parce qu'il faut que je ramène la facture. Je n'ai pas le luxe de continuer à être un bohème.
Oui, c'est la vie d'artiste la plupart du temps. Quoi. Voilà, pour tomber un peu. Alors, avant de te laisser partir, quel sera le prochain... Ouais, tu m'as dit que tu es là pour 6 mois encore?
Oui, écoute... Inch'Allah, comme on dit chez nous, si Dieu veut, en 2025, je vais partir pour 2 nouvelles productions qui ne sont pas confirmées. Je ne peux pas dire c'est quoi, mais ce serait quelque chose qui serait relié à l'international et le sport, en particulier le foot.
Okay.
Donc j'espère que ça va se concrétiser. Ce sera en 2025 que je pars. Okay. Fait qu'en attendant, ouais, je suis à Montréal.
Merci d'avoir eu le temps et d'avoir fait le déplacement pour venir nous voir.
C'était un plaisir, quand tu veux, vraiment.
On aura l'occasion de te réentendre ici sur les ondes de Canal M.
Avec plaisir.
Et puis je te dis bravo pour Demain l'Afrique et puis Immigrants de souche, parce que là vraiment c'est et ta pièce musicale que tu
nous merci fait. Merci beaucoup.
Quand j'ai vu que tu fais du rap, j'ai dit bon tiens, je vais l'écouter d'abord.
Mais tu vois, je commence en disant passe le salam au mogo du quartier. Il y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi un mogo, sauf si tu as vécu en Afrique de l'Ouest. Mais c'est les gars, quoi.
C'est, voilà, c'est ça. Le mogo, c'est Abidjan, c'est avec les nouchis d'Abidjan.
Ouais. Exact.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, pour ceux qui veulent te suivre sur YouTube et autres, sur les plateformes numériques, et s'il ne s'appelle pas là-bas, il ne s'appelle pas Raed, c'est Sahel.
S-A-E-L.
Voilà. Sahel. Si vous le cherchez avec son vrai nom de famille, vous n'allez pas le trouver là-bas. Comme artiste. Merci beaucoup à toi.
Merci, Fulgence.
Et au plaisir de te réentendre ici.
Merci.
Allez.
C'est de l'art ignare et Dieu sait si c'est laid. Mais les anciens ont-ils appris le solfège pour chanter la sauce? C'est moi le mauvais musicien de sous-sol dans ton salon, avec ma sale voix et mon sale son. Les gens dans la salle savent, j'ai trempé ma plume dans de la sale sève pour écrire les poèmes d'un mauvais élève. En espérant que le vent se lève, j'ai toujours fait ce rêve et je remercie la rue. Tout ce que j'ai pu écrire, c'est sur ses lèvres que je l'ai lu. Celui qui va mourir vous salue. C'est moi le mauvais chanteur avec mes cordes vocales en alu et mes paroles qui ont le palu. J'ai des plaies plein le palais quand je te lis mes ratures. Dis-leur que c'est tout sauf de la littérature. Je n'ai pas beaucoup fait l'école, mes profs m'appelaient espèce d'idiot. Si tu les croises, dis-leur que je gagne ma vie à la sueur de mon stylo. Et si la rue a voulu studio, c'est de l'art ignare et Dieu sait si c'est bon. C'est de l'art ignare, a dit le gospel. Mais les anciens ont-ils appris le solfège pour faire du gospel? Enfant du soleil et de la sole, approche et rince-toi à l'oreille. C'est le petit-fils de Matt alimente si tu n'as pas sommeil. C'est de l'art ignare et Dieu sait si c'est laid. Des fois tu tombes sur des trucs, tu te demandes mais qu'est-ce que c'est? Je me souviens d'un concert, au début je croyais que c'était un sketch. Sur scène des chevelus chétifs, tout de stretch, vêtus, tapés sur leur guitare comme si elle leur devait de l'argent. Après ça, dis-moi comment donner une définition de l'art aux gens. C'est comme ce détenu qui fait un tableau pour sa mère. Elle pleure, elle sourit, ça nourrit son amour d'un délice amer. C'est de l'art ignare pourtant. Mais Dieu sait si c'est important pour elle. Je te pardonne si tu n'aimes pas, mais laisse la porte ouverte en partant. C'est de l'art ignare et c'est embêtant. Je ne suis qu'un pauvre griot assis au pied d'un baobab en béton. Je rêve de l'Afrique, rêve de l'Afrique, comme l'enfant adoptif rêve de ses vrais parents. J'ai grandi ici et c'est pas marrant tous les jours. Quand tu réponds au signalement, on te croit pas, même si tu le jures sur ce que tu as de plus cher, ma sœur. C'est de l'art né dans un local qui sentait bon la sueur. Ouais, c'est moi le cancre, les feuilles cornées pleines de taches d'encre. Mais il est tard, ma sœur, il faut que je rentre. Écrire une chanson de paix pour ne plus qu'on se plante. Pour des histoires de papier de banque. Qu'ensemble on remonte la pente. Qu'on ne puisse plus dire que les soirées hip-hop sont des soirées violentes. C'est signé Diamant Capullo Fuladu. Habitant de nulle part, originaire de partout.
Suleiman Diamanka et le titre de la pièce L'art ignare. Voilà. On va continuer. Je vais parler un peu d'un événement qui va se passer à la maison Alcan de Montréal qui est située au 1188, c'est bien ça, Sherbrooke Ouest. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est le centre culturel afro-canadien qui organise un événement là-bas. Oui. Ça va se passer ce samedi 7. Oui, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas le samedi prochain, c'est le samedi après-demain, là. Demain c'est vendredi 6, et puis le samedi 7, ça va se passer là-bas. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est un événement culturel et caritatif aussi, ça s'appelle le Bal Africana, à la maison Alcan de Montréal, qui est située au 1188 Sherbrooke Ouest, une soirée unique qui célèbre la richesse des cultures afro-caribéennes à travers la mode, la musique et puis le réseautage aussi. Hein. Un événement qui vise à créer un sentiment de fierté au sein des communautés noires, tout en stimulant l'industrie créative et de la mode afro à Montréal. Donc de plus, il s'agit aussi d'une initiative caritative qui soutient diverses causes sociales et économiques au sein de la communauté noire. Donc, voilà, les billets sont déjà mis en vente, bien sûr. Ça fait longtemps que ça a été lancé. Seront ravis de discuter avec toutes les personnes qui vont se déplacer. C'est la première édition. Ça n'a jamais eu lieu. C'est la première fois que ça s'organise. Première édition du Bal Africana et de partager avec l'audience des détails passionnants de cet événement-là hier. Et seront, si ceux qui veulent aller, allez-y sur le site de le centre culturel afro-canadien, ça fait CECAM, C-C-A-M, c'est le centre culturel afro-canadien de Montréal. CECAM, C-C-A-M.com, je pense bien. Vous allez avoir toutes les informations là-bas, les billets d'entrée, qu'est-ce qu'il y aura, défilé de mode, de la musique, et puis plein de choses. Vous n'allez pas le regretter en tout cas. Qu'est-ce que je voulais ajouter encore là-dessus? Sur cet événement, ne ratez pas, c'est la première édition, c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Il faut commencer quelque part. Et je pense bien que le directeur général Alain Alexandre aura le temps de venir parler un peu de cette maison, de ce centre culturel afro-canadien de Montréal. Parce que les rénaux ont commencé, si je ne me trompe pas, à l'emplacement de l'ancien établissement de l'école des Beaux-Arts. Donc ça ne peut pas être mieux situé que ça. Ça fait un milieu pour attirer le plus facilement des gens. Alors je pense bien que, voilà, il faut commencer quelque part aussi. Comme je le disais, un bal Africana, c'est la célébration unique. Hein. Ça, il y a ce sentiment de fierté au sein des membres de la communauté noire. L'objectif principal, c'est de renforcer le sentiment de fierté culturelle quoi, parmi les personnes d'ascendance africaine, en mettant aussi en avant le meilleur de la richesse culturelle des communautés noires. Voilà. Donc ça va être une soirée vraiment inoubliable, quoi, une première édition comme ça, avec défilé de mode, des DJ, de la musique. Ils comptent accueillir à peu près 600 participants. Parmi les activités prévues, il y a les participants qui pourront profiter d'un défilé de mode exclusif mettant en avant les créations et les tendances de la mode africaine. Et puis une arrivée tapis rouge, glamour, des bouffes de maquillage et puis vente d'accessoires traditionnels afro-caribéens qui vont offrir aussi la possibilité d'acquérir des pièces uniques et authentiques pour porter durant le bal, pour ceux qui ont envie de se déguiser. Voilà. Allez-y pas. CCA Montréal, Centre culturel afro-canadien, ccamontréal.ca. Vous allez tomber sur le site et toutes les informations là-bas. Ne ratez pas. Voilà, on va faire une petite pause musicale avant de revenir.
I'm single.
Avant de passer à la dernière pièce musicale, ça va être un duo. D'ailleurs, Yemi Alade qui a fait un duo avec Siggy Marley. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Et ça s'appelle Peace and Love. Je dis merci à notre invité qui est venu nous voir en studio ici. Voilà. Raël Amoud, avec son nom d'artiste Sahel, si vous voulez le découvrir sur les plateformes numériques, musicalement parlant. Il n'a pas fini pour l'instant pour les 6 prochains mois. Il est encore là avant de reprendre ses caméras pour faire le tour du monde ou bien de la province encore ou bien du Canada pour nous rapporter de nouveaux documentaires. Voilà, ce monde qu'on connaît. Demain l'Afrique et puis bon, immigrants de souche. Et merci à toi, Samuel.
Merci à toi.
Merci d'avoir permis aux auditeurs de nous entendre. On dit merci à nos fidèles auditeurs et merci à la recherchiste de l'émission, Catherine Bouderon. Très content d'être là, tous les jeudis maintenant du 17h à 18h. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, voilà, on termine en beauté avec Yemi Alade et Siggy Marley. Le titre de la pièce est Peace and Love, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Allez, sur ce, prenez soin de vos minutes. Je vous dis ciao, on se retrouve la semaine prochaine.
Jumping in your heels and clapping. Let other kids in the street be laughing. And everybody feel the joy of that morning. Anywhere you go, you must come back. No matter religion or your culture. Living a good life is an almost something. Woman, no cry no more.
Yeah, me, I'll be there for you. You're not alone. Where the conflict starts, and when the sound blows, a message has been sent. Wipe their head from our hearts, sisters. Yeah, everyone gonna do their part, my brothers. Yeah.
Tell me where I need a visa when I wanna see my brother. Going to Uganda and I need a $50. Is this the price that we pay for love? So tell me.
Pray for